Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, nous sommes à l'accorderie pour un interview avec Zoé Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Zoé Arnaud, vous êtes avec nous car actuellement vous vous exposez à la vitrine de l'accorderie, une exposition avec son vernissage qui avait lieu aujourd'hui, donc à midi, hein, ce jeudi 9 juillet. Une exposition qui sera présente donc jusqu'au 30 juillet. Dans cette vitrine et qui s'intitule « Fertilité ». Alors, ce titre, qu'évoquerait-il pour vous ?
Alors, l'exposition, elle est sur la thématique de la stérilité volontaire. C'est une exposition photo avec différents types de photographies. Donc, il y a une grande photo imprimée sur tissu, des petites photos qui sont des rhizographies et des photos sur céramique qui utilisent la technique du cyanotype. Donc, la thématique de l'exposition... C'est la stérilité volontaire. J'ai interviewé 5 personnes, dont plusieurs qui sont d'Iwaze, qui ont décidé de faire cette opération avant l'âge de 30 ans. Et il y aura un texte d'exposition qui présentera les motivations et un peu qui agrandit la thématique autour de la question de la santé sexuelle et reproductive, la justice sexuelle et reproductive, ces thématiques-là autour de... la fertilité, l'infertilité, etc.
Zoé Arnaud, vous êtes titulaire du DNSEP, obtenu à quelle école ?
Alors moi, je suis née à Die en 1999. J'ai fait mon collège-lycée à Die. Et ensuite, j'ai commencé les Beaux-Arts à Montpellier, dans le sud de la France, là où j'ai fait 5 ans d'études.
Très tôt, il y a eu cet engagement justement pour ces conditions au niveau sexuel, de la société aussi, de rôle attribué, que ce soit à la femme ou à l'homme. Ça vous a interrogé très tôt ?
Pas forcément dans ma formation artistique. Je pense que ça s'est alimenté par la suite en voyant un petit peu comment les artistes contemporains ils utilisent les questions politiques à l'intérieur de leurs œuvres. Mais là, ça a été aussi en réaction avec la politique qui se passe actuellement dans la Drôme, en réaction... J'ai l'impression que ça a germé comme ça, la fermeture de la maternité, la remise en question, fermeture du centre sexuel, qui a ouvert ensuite... c'est important de le dire, parce que je me suis informée auprès du planning. Il y a toujours le planning familial qui existe à l'hôpital de Die, mais qui n'existe plus dans le centre de Die, à son endroit originel. Donc tout ça, ça a commencé à faire germer en moi cette question autour de la contraception, le contrôle du corps, ce qui était dans mon travail auparavant, mais qui était plus lié sur la question, si ça vous intéresse d'aller voir sur mon site mes autres œuvres, sur la question de l'avortement. Là, je voulais apporter une autre analyse, celle de la stérilisation, qui est une autre forme de contraception. En fin de compte, c'est un choix plus radical, mais c'est aussi quand on n'a plus le choix, parce qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile d'accéder à la contraception. La politique, peut-être, va de plus en plus dans des endroits sombres qui vont contrôler ce genre de choses. Et certaines personnes décident qu'elles n'auront jamais d'enfants et du coup, de se stériliser.
Tu es allé au-devant de certaines femmes pour questionner quelle était ta quête, justement, pour aller vers elles.
Je me suis rendu compte que c'était très varié, les motivations des personnes, et c'est pas que l'éco-anxiété ou la politique. Parfois, c'est un choix intime qui date d'il y a très longtemps. C'est des personnes qui se voient pas avec des enfants, ou alors qui ont une angoisse totale d'être enceinte, qui fait que ça les empêche d'avancer dans la vie. Donc ça peut les libérer de cette pression et cette peur. Aussi la peur de mal faire. Là, actuellement, l'interview elle a lieu durant le vernissage et autour de la table, dans le repas partagé, on a pu tous un peu partager nos expériences. Et il y a certaines personnes qui sont à la corderie aussi, qui ont un certain âge, qui n'ont pas eu d'enfants et qui se sont vraiment reconnus dans les témoignages des personnes jeunes que j'ai partagées, aussi sur le non-sens parfois d'avoir un enfant, comment ces personnes, en fait, elles ont eu la sensation d'être parents malgré tout, parce qu'elles se sont occupées d'enfants de leur famille ou alors de leur voisinage. Et ça a apporté la réflexion petit à petit jusqu'à... Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un enfant de son sang ou alors est-ce que c'est si important la famille nucléaire? Est-ce que la famille, c'est pas autre chose, par exemple les amis, etc. Est-ce que les enfants, c'est pas autre chose, par exemple les enfants de sa famille ou les enfants de ses amis, etc. Donc c'est pas aussi triste que ça en a l'air. On pourrait croire que c'est complètement déprimant, ils vont pas avoir d'enfants, ils vont mourir tout seuls. Mais en fait, c'est plutôt une question de communauté et de voir le monde. Est-ce que le monde, il passe que par la fertilité, du coup, la fertilité? Est-ce que ça passe que par la fertilité, c'est-à-dire créer? Ça me rapporte aussi à ma pratique artistique, à quoi ça sert de créer. Moi, j'ai plutôt envie que les gens y réfléchissent à quelque chose, que ça leur fasse poser des questions. Et au passage, qui passe un moment visuel intéressant. Donc là, c'est le mariage entre les deux.
Et justement, à qui s'adresse cette exposition? Donc, est-ce que selon toi, il y a des personnes à éclairer, à convaincre peut-être, ou de faire comprendre?
J'ai l'impression que c'est quand même un peu tabou, la stérilisation. C'est pas quelque chose qui est du tout répandu, même si le mot vasectomie, il est déjà plus acquis dans la société que ligature des trompes ou hystérectomie. Alors là, qui ont une connotation hyper négative, alors que si c'est le choix de la personne, elle sait ce qui se passe pour elle. Cette expo, elle vise... Comme elle se passe dans la vitrine, je voulais pas faire quelque chose de trop frontal, trop hard à regarder. Donc c'est des images assez douces, sympathiques, qui représentent, qui veulent s'éloigner aussi du côté médical et qui représentent aussi un peu de douceur, quelque chose qui serait autour de... En fait, j'ai réfléchi sur moi et j'ai décidé que ça ferait pas partie de ma vie. Et pourtant, je reste une personne qui va vieillir, grandir, avoir de la joie autour de moi, etc.
Donc, une sélection d'images qui sont proposées sur cette vitrine, cela implique donc que tu as des travaux très variés et qui sont peut-être pas forcément présentables à tout le monde. Est-ce que sur quel aspect justement tu proposes ces autres images? Tu parlais de l'image médicale, par exemple, qui sont extrêmement crues en général. C'est oui, l'imagerie médicale sans... Comment dire, sans affect. Et donc, d'ailleurs, dans le domaine de la représentation de la femme, de ses organes, est-ce que tu as aussi étudié un peu cette représentation au travers des siècles? Le premier étant Léonard de Vinci, qui a aussi procédé à ses anatomies.
Là, j'ai fait le choix quand même, dans la série de photos, il y a plusieurs photos de ventre, en fait. Alors, c'est pas très visible, mais la cicatrice de l'opération de l'hystérectomie ou de la ligature des trompes, actuellement... Alors, par le passé, j'imagine que les cicatrices étaient plus grosses, mais maintenant, les médecins arrivent à faire des cicatrices très petites, voire invisibles. Parfois, c'est une opération interne. Et donc, c'est une petite cicatrice qui se trouve au niveau du nombril. Et pour la vasectomie, c'est au niveau du pubis. Et c'est des toutes petites cicatrices, en fin de compte. Donc, c'est pas quelque chose de très difficile à regarder. Et qui n'est pas du tout douloureux non plus. Les personnes, elles ne souffrent pas quand cette opération a lieu. Après, dans ma pratique, j'ai des images plus frontales sur d'autres sujets qui m'intéressent. Par exemple, je fais beaucoup de vidéos ou de... Moi, ma pratique, c'est plus vidéo, c'est images. Mais là, c'est ma première série vraiment de photographie. Sinon, en général, je fais de la vidéo et j'ai des vidéos plus... trash, plus DIY punk, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, autour de femmes qui se vengent et de femmes meurtrières.
L'abord de ces techniques que tu utilises, notamment la photographie, la vidéo, semble-t-il, et un peu la céramique également, est-ce que tu es un peu touche à tout aussi de la pratique plastique pour pouvoir t'exprimer et... est-ce que dans la pratique même de ces certaines techniques, il y a un lien beaucoup plus fin entre ton thème justement cet abord technique. Je ne sais pas, par exemple, la photographie argentique, celle qui apparaît dans le bain révélateur, est-ce que c'est aussi une apparition? Est-ce qu'il y a un processus chimique? Est-ce que tu y trouves des concordances ou quelque chose qui serve de tremplin peut-être sur des affirmations?
L'exemple de la révélation par l'argentique, on peut l'avoir aussi dans les... J'ai utilisé la technique du cyanotype sur les céramiques. Là, c'est une technique de photo qui, en général, elle peut marcher sur tout, sur papier, tissu. Et là, j'ai testé sur céramique avec des négatifs photo. Donc, on découvre l'image en la baignant à l'intérieur de l'eau après qu'elle ait reçu la couche de produit cyanotype. Donc ça m'intéresse aussi, cette image qui se révèle. Là, ce qui lie aussi mes matériaux, c'est réellement dans mon travail aussi autour de l'écologie et du sens de créer. On retourne sur la fertilité, créer, mais pourquoi, pour qui? Donc chaque matériau que j'ai utilisé, ça avait vraiment de l'importance, leur origine. La céramique, par exemple, c'est de la terre recyclée. Le cyanotype, c'est plutôt propre comme technique. C'est une technique très ancienne qui date du début de la photographie. La RISO, c'est les photographies qui sont dans la deuxième vitrine, qui sont très colorées. C'est à base d'encre de soja, qui est une technique japonaise de base industrielle. Et le grand tissu, c'est aussi il est biodégradable à 90%. J'ai appris ça en l'imprimant. Donc à chaque fois, pour moi, c'est super important. Et les tissus aussi qui sont tendus derrière, c'est des tissus que j'ai achetés en brocante. Pour moi, c'est super important que la source des matériaux ait essayé de créer au minimum... des nouvelles choses avec des techniques très polluantes, parce qu'en fait on a énormément d'alternatives propres pour pouvoir créer.
C'est un support de dentelle, je crois, hein, à première vue. Toujours un peu ce côté matrimonial, je dirais, hein. On connaît la dentelle faite par les femmes pour leurs occupations, hein. C'est un dialogue avec le passé et aujourd'hui aussi.
Oui, j'ai utilisé la dentelle aussi par forme esthétique. J'aimais le fait que la lumière transparaisse à l'intérieur, qu'elle renvoie quelque chose autour de la douceur. Là, c'est beaucoup de corps un peu lascifs, avec beaucoup de mains qui se touchent, des fleurs, des paillettes, des quelque chose d'un peu sensuel aussi autour du corps. Et je trouvais que ce tissu, ça se mariait bien avec.
Des artistes t'ont marqué aussi, qui t'ont donné envie d'être artiste?
Plusieurs artistes. Moi, je suis très inspirée par des arts artistes radicaux, un peu punk, un peu en mélange avec l'art et d'autres pratiques. Là, récemment, j'adore le travail de Annie Sprinkle, qui est une artiste contemporaine des années 70. C'est quand même un peu ancien. Et aussi actrice pornographique. Et elle a allié les deux mondes, celui de la sexualité et celui de l'art, en créant par exemple le manifeste pour le sexe ou des choses comme ça, qui sont... Moi, je me reconnais beaucoup dans des pratiques qui sont autour de la libération sexuelle, etc. Parce que c'est des remises aussi en question de la norme, et je trouve que l'artiste, c'est un peu sa place de remettre en question la société, pourquoi on ferait les choses de cette manière et proposer des petits pas de côté.
Le body art aussi est présent. Ce qui m'évoque cet aspect, c'est ces aiguilles, hein, autour du nombril. Ça me fait penser à Gina Payne. Pour vous, quelle est la part de la douleur dans l'expression artistique?
Alors, ça correspond... Cette pratique aussi, elle correspond à ma propre... ma propre esthétique, parce que vous pouvez pas voir, je suis à la radio, mais j'ai plein de piercings. Et la modification corporelle, moi je mets la stérilisation dans la famille de la modification corporelle, parce que, et qui est comme plein d'opérations que les humains font tous les jours, avoir un appareil dentaire, tout ça c'est des modifications corporelles que la science, les évolutions scientifiques ou culturelles nous ont permis pour ressembler de plus en plus, avoir la liberté de changer et de devenir la personne qu'on aimerait être, ou vivre en meilleure santé, par exemple. La douleur, j'ai fait des projets sur le needle play, c'est un peu marrant, c'est l'art de faire de la décoration avec des piercings.
sur le corps, avec des aiguilles aussi. Du coup, là, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ça, l'art corporel, des piercings, mais aussi la peinture corporelle. Il y a plein de choses qui passent dans le body art. Mais c'est vrai que souvent, il y a un peu un côté extrême, bah, comme Gina Page, de l'épreuve. L'épreuve physique qui permet de devenir une nouvelle personne. Et ça, ça m'intéresse.
Orlan aussi s'est expérimenté. Je l'ai rencontré également, où elle envisageait de se mettre des prothèses sous le front pour donner du relief au visage. C'est un travail aussi, cette mutation du corps. C'est une approche, comme les films de Cronenberg. D'ailleurs, il fut un moment où il y aurait eu un projet entre Orlan et Cronenberg pour faire ce film. Il y a, avec la progression des technologies et de la science, il y a cette envie de transformation du corps. Hein, quel sens a selon toi ?
Ben dans le texte, je présente une notion et je vais vous en expliquer une autre. Donc la notion de biohacking, qui est la notion de modification corporelle. C'est la même chose, mais c'est l'anglicisme. Mais le biohacking, ça existe dans la science aussi. C'est de pirater la nature pour faire devenir autre chose. Et l'autre notion que je voulais aborder, c'est la notion de genderfuck, c'est-à-dire aussi pirater son genre, de pouvoir aller du côté féminin, masculin, un peu au milieu en même temps. Et ça me fait penser à... Et assumer les opérations, assumer la modification, comme dans la performance d'Orlan, où elle est filmée en direct en train de faire la chirurgie.
Avec un air de samba.
C'est ça. C'est, en fait, c'est pas un secret, c'est pas la honte de faire ça. Et en fait, c'est trop cool. C'est trop chouette de pouvoir se changer, de pouvoir ne pas être enfermé dans son corps, devenir quelqu'un d'autre.
Voilà, un côté festif, en tout cas.
Oui, moi, c'est super important. Il faut que ça passe par... Là, cette expo dans la vitrine, elle est moins marrante que ce que je fais en général. J'aime bien faire des trucs drôles ou au moins doux amers. Et là, c'est plus en douceur parce que le sujet est déjà un peu lourd. Mais pour moi, c'est hyper important que ça soit amusant.
Justement, tu proposes des performances publiques dans cette démarche ?
Ça m'est arrivé, c'est en projet quelque chose à l'avenir par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas performé, c'est pas arrivé depuis, je réfléchis à c'est quoi ma dernière performance, non, là je saurais pas dire.
Alors là on parle de cette exposition qui s'intitule Fiertilité, il y a le mot fier dedans, c'est aussi... Le lien avec la marche des fiertés, il y a aussi cette affirmation de la différence et d'être pouvoir être reconnu aussi par la société.
Oui, exactement. Exactement. Dans toutes ces aspérités, ces possibilités, une personne sans enfant, c'est pas un humain moins intéressant qu'une personne avec des enfants. Voilà, c'était aussi pour visibiliser ces personnes. Et là, j'étais très, très contente aujourd'hui à la Corderie de rencontrer des personnes d'un certain âge. La personne qui m'a accueillie aussi pour faire cette exposition, qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas eu d'enfant et qu'elle s'était vraiment reconnue dans l'expo, que ça a été intéressant pour elle. Et je trouve, à poursuivre aussi pour ce projet, j'aimerais bien interviewer des nouvelles personnes. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie ? Est-ce que c'est des personnes qui ont ressenti une pression sociale ou alors qu'est-ce que ça a pu permettre de libérer, etc. Ce paradigme, le fait de faire ce pas de côté, de ne pas avoir d'enfant.
Un autre abord aussi du corps, c'est celui du transhumanisme. C'est un sujet sur lequel tu t'es interrogé.
Oui, moi ce qui m'intéresse dans Alors le transhumanisme, c'est une notion... un peu flou, parce qu'elle peut vraiment virer vers l'extrême droite et l'eugénisme. Il y a des personnes qui veulent, des personnes très riches, des milliardaires, qui veulent modifier leur corps pour devenir immortels, vraiment dans un aspect proche de la science-fiction. trier les humains pour pouvoir les permettre d'avoir un physique meilleur, pour pouvoir être des meilleurs travailleurs, pour pouvoir avoir des capacités mentales supérieures et évacuer tout ce qui serait personne physiquement affaiblie ou handicapée ou pas de la bonne, pas du bon groupe social, etc. Mais il y a une autre part du transhumanisme, moi, qui m'intéresse, qui est la philosophie de Donna Haraway sur la devenir cyborg et qui rejoint tout ce que j'ai dit avant, en fait, de la modification, le fait que la technologie, elle fait partie de nos vies et on est marié avec elle. On ne peut pas se dissoudre de la technologie qui fait partie de nos vies maintenant. Donc, on est tous un petit peu des robots. Et c'est comment utiliser ça à meilleur escient. Comment, moi, mon conseil, bah, de moi, comment je le vis. J'essaye de tout pirater, hacker, trouver les petits moyens de faire que les choses se transforment, etc.
Quand tu parles d'être robot, quel sens tu donnes ? Est-ce qu'on est complètement dépendant d'une règle ?
Pas forcément, ouais. Comme je disais avant, on peut toujours, pour moi, on peut hacker, pirater, mais je pense, il y a des personnes qui arrivent très bien à retirer toute technologie de leur vie, mais la technologie, là, comment on la définit ? Est-ce que c'est l'outil ? Je pense que l'humain, il a survécu tout ce temps grâce à des connaissances techniques. Et c'est ce qui nous différencie des autres êtres vivants, dans le mal et dans le bien. Donc, accepter que la technologie, elle fait partie de nos vies et que grâce à ça, on peut augmenter nos capacités pour, par exemple, se libérer du travail, se libérer du labeur, de la souffrance de la maladie, de la souffrance, par exemple, quand on accouche, etc. C'est, je trouve, une évolution humaine appréciable.
Un regard sur cette notion hein, de notre corps, de sa destination et puis de ses envies. Cette exposition est donc composée de photographies. Alors il y a celle de Prisme et Eddy. Ce sont des personnes qui te soutiennent, qui t'assistent.
Alors moi dans mon travail, souvent avant. Au début de l'interview, on a parlé de matériaux, de ressources des matériaux. Moi, c'est aussi très important de travailler collectivement avec d'autres artistes. Je trouve ça dommage quand les artistes ils sont isolés et qu'ils disent qu'ils ont tout fait eux-mêmes, parce que c'est très rare de se faire aider par absolument personne. Et donc, c'était mon idée de base, c'était d'inviter d'autres photographes à participer à l'exposition. Là, ça s'est transformé en moi qui suis allée piocher dans l'archive de plusieurs personnes qui font de la photographie amateur à Die. Donc, il y a deux photos qui proviennent de ces ressources-là. Et ça me fait très plaisir de que ces personnes soient visibles à l'intérieur de l'exposition, qu'elles soient nommées, parce que on se fait toujours aider d'une certaine manière par notre entourage quand on crée. Et tout le monde a ça me fait trop plaisir de pouvoir montrer le talent de mon entourage, de mes amis, la créativité que chacun peut offrir sur les mêmes thématiques, sur la thématique qui se répond.
Ces photographies, donc le système rhizographie, ce sont des couleurs, tu disais, à base d'huile de soja ?
Il me semble. Alors après, je suis pas professionnelle de la technique. J'en ai fait que 2-3 fois. Là, je les ai fait à Heure, chez Système Sensible, qui est un atelier qui fait principalement que cette technique. Donc, il serait bien mieux vous informer que moi. Mais les encres sont d'origine naturelle. Et c'est une imprimante qui fonctionne un peu à la manière de la sérigraphie, c'est-à-dire des couches de couleurs qui se succèdent. Et là, c'est des couleurs qui sont très, très intenses, voire fluorescentes. Il y a du rose fluo, du orange fluo, du vert fluo à l'intérieur de celles que j'ai imprimées. Mais ça peut s'imprimer en noir, en bleu, peu importe. On s'en fiche des couleurs. Et c'est une technique industrielle de base parce qu'elle est très économique en encre par rapport à l'impression traceur laser qui est très polluante. C'est difficile de nettoyer, c'est difficile de recycler les cartouches, etc.
Donc, à la limite, on peut les manger, ces photographies ?
Ah, on pourrait, mais ça existe, l'encre comestible aussi. Je ne sais pas si on pourrait les manger. Je pense quand même qu'il y a un tout petit peu de chimie, mais je pense que c'est beaucoup plus écolo-friendly que d'autres techniques d'impression.
Ouais, en feuille de riz, ça sera plus simple. Alors, donc cette exposition à la vitrine de la Corderie a lieu jusqu'au 31 juillet. En même temps, il existe une autre exposition qui s'intitule « Bouture » et qui se passera, elle, à la Galerie Magma, tenue par Floriane Carlier, qui sera aux 3 rues du Salin à Die. Donc une exposition avec un vernissage le 18 juillet, un samedi donc, à 11h. Quelle est la thématique que tu abordes justement avec cette bouture ? Est-ce que justement, là on parle de reproduction, hein, avec la première, la stérilisation, la non-reproduction, et la bouture, c'est en fait prélever sur quelqu'un ou sur un objet et le reproduire en quelque sorte, c'est du clonage en quelque part.
Exactement. Ça va rejoindre tout ce que j'ai dit avant par rapport à créer collectivement, l'artiste ne crée pas seul. C'est une résidence d'art graphique, donc le dessin, mais en fait le dessin c'est énormément de choses, tout ce qui est autour de l'art en 2D. Cette résidence, elle va avoir lieu à Vercheny, dans la maison de ma grand-mère. Et c'est un peu en hommage à elle, ce mot bouture, parce que c'était une personne qui faisait souvent des boutures, et j'aimais son rapport à la nature et aux plantes. Ce lien qu'elle entretenait, moi, ça m'a toujours touchée, qu'elle aimait beaucoup un peu ce côté des plantes pas très nobles, des plantes vivaces, etc. Moi, ça m'a... L'autre titre avant, c'était, je voulais l'appeler vivace, mais maintenant, c'est bouture. La bouture, c'est quoi ? C'est on a une plante chez soi, et puis on coupe un petit bout, on le met dans l'eau, puis on peut l'offrir à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu... une plante qui traverse, qui va de maison en maison, etc. Donc là, c'était un peu l'invitation que j'ai faite avec, auprès de mon entourage artistique et l'entourage artistique de Floriane, qui gère la galerie. On s'est dit qu'on allait partager ensemble nos amis artistes et qu'on allait se trouver un petit endroit pour dessiner ensemble pendant une semaine. Et le résultat sera visible à la galerie le samedi matin. Le résultat de cette résidence de dessin qu'on va partager ensemble, on sera une dizaine d'artistes.
Ah, c'est une exposition collective, donc.
Exactement, oui. C'est le fruit de la semaine de résidence de tout le groupe, autant Floriane que moi et les autres personnes qu'on invite. Je pense qu'on va peut-être faire une interview la semaine prochaine, comme ça, c'est les artistes, ils ont envie de se présenter par eux-mêmes, parce qu'il y a des personnes de Die, de Cray, de Saillant qui vont venir, et mon entourage que j'ai rencontré au Beaux-Arts de Montpellier, donc c'est le Sud et la Drôme qui vont se mélanger pour ce moment, et c'est aussi un mélange d'artistes professionnels qui viennent de l'art contemporain, et aussi des personnes qui ont d'autres pratiques, par exemple l'illustration, la BD... le vitrail, la céramique, donc c'est très ouvert aussi. Ça, je pense que ça va créer des choses intéressantes.
Yen Hurlante, c'est un collectif d'artistes, justement. Quel est son motif ?
Donc là, j'organise l'exposition, pas en mon nom, mais en nom de mon collectif d'illustration. Alors, Yen Hurlante, c'est un collectif d'illustration et de fanzine queer sur les thématiques... il y a eu plusieurs fanzines qui étaient sur le thématique de la misandrie. Maintenant, on fait plus des thématiques sur l'amour queer, etc. Nos prochains et sur les le fanzine, ça fait partie de la subculture punk du DIY. C'est quelque chose qui est facile à imprimer, qui souvent est à base de noir et blanc, collage, technique un peu simple. BD, etc. Et qui, normalement, coûte pas cher et se partage un peu autour de nous, autour de ses amis. Donc, ça correspond aussi un peu à la thématique de la bouture. Et ce collectif, il regroupe 6 artistes qui sont autant de Belgique que de France. Là, il y a plusieurs personnes du collectif qui vont venir durant la résidence. Voilà.
Eh bien, merci. Alors, attends. Zoé. Merci Zoé, Arnaud, de nous avoir donné un peu de ton temps pour nous parler de ces deux expositions. Tu reviendras la semaine prochaine peut-être sur RDIWA pour présenter plus longuement celle qui s'intitule Bouture. Et donc j'invite les auditeurs à passer devant la vitrine de la Corderie pour découvrir Fertilité. Il y a un site internet pour toi.
Oui, alors mon site internet, c'est zoéarnaud.jimdo, c'est l'hébergeur de mon site. Et sinon, j'ai un Instagram qui renvoie vers mon site, et c'est zoéarnaud aussi. Voilà.
Merci. Alors juste une autre chose, Est-ce que la musique est inspiratrice pour ton travail ? Non, pas forcément.
Pas forcément, ça
fait partie. Mais il n'y a pas forcément une ambiance musicale pendant que tu travailles ?
Si, quand même.
Tu aurais une proposition pour qu'un morceau finisse cette émission ?
Ah, une proposition. Il faut que je trouve une idée qui colle un petit peu. Parce qu'en même temps, alors, l'ambiance anxiogène du Diwa actuellement offre une autre forme de réflexion autour de l'exposition. C'est vrai que c'est, on passe un moment plutôt étrange et aussi un peu... qui offre un moment de réflexion autour de l'avenir de l'humanité, alors quelle musique entrerait bien ? Parce que je voudrais bien partager une musique joviale, mais en même temps, c'est pas trop l'ambiance du moment.
Ah, un peu comme en hommage à Orlan, mm-hmm. un Peter de samba.
Ouais, c'est ça, ça serait très bien.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée.